RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se tafferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, en effet, après cette soirée de Ligue 1, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense. Tout bas, Pierre Ducrot est là. Pierre, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel.
Et Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Lille bat le PSG 5-1. On va y revenir évidemment en longueur dans l'After. Un peu plus tôt dans la journée, Rennes-Nice 0-0, Montpellier a battu Toulouse 2-1. Saint-Etienne a battu Bordeaux 3-0, le 32-16, le hashtag RMC Live, Direct Studio bien sûr. Vous le savez, ce soir, il y a beaucoup de choses à lire. Et bien sûr, pour démarrer l'after sur de bonnes bases, eh ben il y a quoi ? Il y a les trois points, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, quels sont tes trois points de débat ce soir ?
Alors là, très compliqué, parce qu'il en faudrait 10 des points. En sélectionner 3, écoute, permets-moi de commencer quand même par le vainqueur. Parce qu'ils ont fait un super match, parce qu'ils ont eu un très bel état d'esprit et que ce résultat confirme leur belle saison. Donc bravo Lille pour cette deuxième place qui au final va quand même les emmener en Ligue des Champions. Depuis le temps qu'on se demandait s'ils pouvaient, ils peuvent et ils y seront. Après évidemment la catastrophe PSG va retenir beaucoup notre attention. Ça doit être la première fois un tel score depuis le fameux Sedan.
Tout à fait.
Était, non
oui. Pierre Ducrot est titulaire.
C'est désagréable Daniel dès le départ.
On
commence l'émission depuis une minute, c'est désagréable.
Bah, t'as pu citer Algerino ou Rabé Sandratala, il fallait que tu cites Pierre.
Si, j'y étais, Daniel.
Sans expulser, on avait Richard Ferrand. Écoute, je pense que c'est un résultat.
C'est mieux.
Je pense que c'est un résultat qui, est une prestation ce soir qui signe pour moi la pire saison, de l'ère Qatari.
Ça y est, ça y ressemble, malheureusement.
On est en plein dedans. Bien plus que celle, certains disent que celle où le PSG perd le titre, mais rien à voir. Faut voir contre qui tu l'as perdu cette année-là, le titre. Ça a vraiment rien à voir de chez rien à voir. Donc là,
T'es encore dans ces trois points, là.
Oui, donc pire saison de l'ère Qatari.
Okay.
En fait, il avait parlé de 10 points, il en a mis 8 dans le deuxième.
Allez, j'enchaîne avec le troisième. Tuchel est grandement responsable de ce qui se passe en ce moment au PSG. Il va falloir un petit peu que tout le monde soit recadré. Et lui, le premier.
Pierre.
Point, je vais faire vite, du coup, je vais rattraper le retard. Le Lost qui joue bien et à fond ce match dans un contexte particulier pour le PSG, mais le Lost en a profité et ils seront deuxième et c'est fait. Voilà, c'est fini pour Lyon. Deuxième point, le PSG. Alors, ça fait mal. Il y a un contexte, oui, mais pas que. Parce que tu peux pas passer au travers comme ça, même en étant à 10, tu dois être beaucoup plus costaud quand tu as les ambitions que devrait avoir le PSG. Mais je rejoins Daniel, c'est définitivement, un PSG très très meurtri et très diminué en cette fin de saison. Et puis le petit 3, j'aimerais juste qu'on parle du match de Saint-Etienne quand même, parce qu'ils ont fait quelque chose d'important cet après-midi.
Très bien, alors on va avancer vite parce qu'on a beaucoup d'appels au 32-16 ce soir. Les gars, on va démarrer par Laurence. On va parler de Lille en premier si vous voulez bien quand même. Parce
bien
que
sûr,
là,
bien sûr.
Ils méritent plus que jamais ce soir les Lillois. Salut Laurence.
Bonsoir chers amis.
Salut Laurence.
Bonsoir. Bon, alors t'es supportrice du LOSC. Est-ce que tu estimes que ce soir c'est un grand soir pour ton équipe?
Ah, ils montent peut-être en tête du kiff du top 5 du kiff. Hein.
Ah ouais.
Bah, on le fera bien. C'est demain soir qu'on fera le bilan. Mais ouais. Lille était deuxième ou troisième, je pense qu'ils viennent
ils peuvent derrière peut-être... Strasbourg et Rennes.
Ah, mais un match comme ça, déjà Rennes a bien rétrogradé et a peut-être. Là, je pense que Lille va être un ou deux.
Laurence, t'as kiffé?
Alors, permettez-moi tout d'abord de vous dire que je suis très heureuse d'avoir enfin la voix, parce que depuis ce début de championnat, on ne parle jamais de Lille. On a toujours Lille est deuxième. Oh non.
Bon, t'exagères un peu quand même.
Et alors toujours, bien sûr, comme toujours, comme tout supportrice, comme je suis depuis l'âge de 5 ans et j'en ai, mon Dieu, 5 ans de plus.
Est-ce que tu penses que Lille dérange?
Voilà. Donc j'ai connu le stade Joris, Grémont-Pré-Joris.
Ah, le beau stade Joris.
Oui. Mon Dieu, si vous saviez. Voilà. Et donc, je suis très heureuse de voir enfin que l'on voit la qualité de Lille et surtout de voir que le PSG n'est pas si bon, notamment en défense, parce que c'est un gros problème PSG, c'est la défense, hein. C'est pas ça, seulement l'attaque.
Avec Kerrer, Dagba, vu les joueurs qu'il y avait en défense ce soir.
Attends, Laurence, là, je pense que Laurence, restons sur Lille quand même. On parlera de la défense du PSG un peu plus tard.
Alors, donc Lille, bien sûr, on parlera toujours de Pépé, on parlera de Bamba, on parlera de Ikoné, on parlera de tous ces joueurs. Et notamment, alors, je voudrais quand même mettre une amende honorable, parce que je pensais que Monsieur Galtier, j'avais eu très peur. Avec mon fils, on s'était dit, mon Dieu, Galtier, Johnny va arriver à Lille. Que va-t-il se passer avec son chewing-gum? Voilà, on a eu très peur, pour tout vous dire. Et donc, on voit qu'il a construit quelque chose. Bien sûr, surtout défensif, et c'est le gros problème du championnat de France, c'est qu'on est toujours trop défensif. Mais là, il a construit quelque chose. Bien sûr, quand même avec.
Donc là, tu dis bravo Galtier ce soir.
Alors oui. Si ce n'est que c'est quand même aussi le recrutement. Ocampos, ça nous a aidé à recruter des joueurs qui viennent un peu de partout, qui sont très offensifs. Et on a une super infrastructure qui nous aide. Mais quand même, on est quand même sur un... voilà, je suis étonnée de Galtier. Maintenant, combien de temps
on va parler de Galtier. Laurence, reste avec nous.
Ouais.
Et en tout cas, bah écoute, ton coup de cœur est bel et bien passé. Alors sur la performance lilloise, vous aussi vous dites bravo Galtier, ou alors vous retenez plus le scénario aussi un peu incroyable, parce que la première mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu aussi qui ont joué en faveur de Lille, il faut le dire tout de même.
Bien certainement, sûr. Ils ont profité incontestablement de la situation,
les blessures, le rouge
et de ce qui s'est passé dans
le match. Tu ne dois pas craquer comme ça, Daniel.
Ils n'ont pas Le début de match, le PSG démarre bien avec un bon gros pressing. Il y a ce premier but logiquement refusé. Eux marquent, PSG réagit. Effectivement, il y a
très bon Mbappé.
Oui, t'as même une balle de 2-1 pour Kerrer dès l'entame de la seconde période. Mais le fait se retrouver à 10 très vite, d'avoir les blessés, d'avoir au final une équipe assez banale avec des joueurs très quelconques. C'est vrai, c'est une réalité qui a joué en faveur des Lillois. Après, le score est large, ça veut dire que non seulement ils en ont profité, qu'ils ne se sont pas contentés de peu, qu'ils ont continué à jouer, qu'ils ont fait preuve d'efficacité, et souvent ils l'ont été quand ils ont eu les espaces. Et là, les espaces, il y en avait. Ils ont démarré avec une tactique qui était de
justement
profiter.
Le problème,
ils ont fait exploser Paris,
qui
même.
Était c'est justement le problème. Qui était de profiter des latéraux qui étaient très hauts. Bon, comme les latéraux ont changé, puisque Meunier s'est blessé, ça a mis un petit peu le bordel. Le PSG était tellement désorganisé que Lille a vraiment pu profiter totalement de ses atouts. Effectivement, que le score est aussi le reflet des déboires des Parisiens dans ce scénario incroyable. Ça excuse en rien d'abord le PSG. Ça diminue pas forcément ce qu'a fait Lille. Ouais, il y a des circonstances, parfois faut en profiter. Après qu'il gagne 5-1, ouais, ça brille, mais de toute façon le match qu'il le gagne 2-1 ou 5-1, le fait que Lille batte le PSG, que le PSG ait perdu chez le deuxième, chez le troisième, que le PSG à chaque fois qu'il est confronté à une adversité, et ça date pas de cette année. Ça date même des années d'avant. Et dès qu'on leur rentre dedans, dès qu'on les sort de la zone de confort, ils soient sans arrêt en difficulté. Ça, c'est une question qui va au-delà, avant qu'on tape sur Tourelle, parce qu'on le fera, ça va au-delà et de Tourelle et de ce match. C'est une responsabilité du club. Mais ça fait des années qu'on le dit.
Si on parle de Lille,
le confort des joueurs au PSG.
Si on parle de Lille, on peut que saluer le fait qu'ils aient profité de tout. Alors je vais pas dire des errances, parce que c'est pas des errances, mais de tout ce que le PSG leur a offert, de tout ce que le contexte leur a offert.
Ils ont tout pris.
Voilà, ils ont tout pris. Et ça, c'est une formidable qualité.
C'est une deuxième mi-temps de
rêve. Ça s'appelle de l'efficacité.
Et les espaces, t'as raison. Les coups de pied arrêtés, n'oublions pas. Les coups de pied arrêtés.
Corner qui donne le but de Fonte, là. Si t'envoies des tirés comme ça en Ligue 1, là, c'est pas souvent.
C'est une. Non, mais attends. Après, tu te demandes ce que font les mecs dans la surface.
Et ce qui est important, c'est que c'est une situation de coups de pied arrêtés. Donc ça veut dire que c'est une situation où le Paris Saint-Germain faudrait revoir l'image où tu comptes. Mais où t'es pas à 6 contre 9 hein, dans la surface de réparation. T'as deux Lillois qui sont restés derrière.
C'est de l'attitude, c'est du comportement.
C'est égalité numérique. Au pire, voir t'as peut-être un défenseur en plus avec ton gardien. Donc ça traduit aussi quelque chose. Donc félicitons les Lillois effectivement d'avoir profité de tout ça, et ils l'ont fait avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. il y a des joueurs qui sont pour moi aussi quand même ressortis un peu du lot, et c'est les mêmes joueurs qu'on a cité cette saison du côté lillois. Alors il y a les attaquants forcément, mais t'as le milieu de terrain, t'as Mendes, t'as Font, exactement. Ouais. T'as Maignan qui fait aussi un bon match, parce que sur les 2-3 arrêts qu'il a à faire, il est là.
Et il en fait un où il va au sol à une vitesse incroyable.
Exactement. Ouais, c'est vrai.
En deuxième mi-temps.
Je vois l'arrêt. Ouais, je vois l'arrêt. Il va très très vite au sol pour bloquer. Je sais plus.
Maignan, c'est un des meilleurs gardiens. Il est pas cité, mais c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Maignan, je le dis souvent moi à chaque fois.
Et une fois que t'as dit ça, après, t'es obligé effectivement de parler du Paris Saint-Germain. On va le faire après, je pense. Mais
c'est vrai quand même qu'on dise un mot de Galtier, parce que là où Laurence a raison, c'est vrai que Galtier, il a complètement renversé son image aujourd'hui. Et ce qu'il réussit avec Lille, genre, faut le souligner spécialement ce soir.
Mais on l'a dit, Galtier fait bien avec aussi ce qu'il a en plus et qu'il n'avait pas, pour moi, je pense à Saint-Etienne très souvent.
Alors, très franchement,
il a rarement eu des joueurs qui sont capables de faire la différence comme ça aussi.
Moi, je l'ai déjà dit récemment, je n'ai pas encore lu l'interview où Galtier parle totalement de ce qu'il a fait. Du jeu et de s'il y a eu réflexion. Il a pas les mêmes adjoints qu'il a eu pendant longtemps. Mmh. Il a toujours des fidèles mecs avec lui et tout, mais il travaille avec un staff qui est plus élargi. Mmh. Je crois que bientôt je vais aller le voir
pour savoir s'il a changé un peu de méthode, de vision.
Exactement.
Des choses, etc.
Il m'a promis une rencontre sous peu. Il voulait laisser passer ce match, je pense. Et parce qu'un entraîneur, ce qui fait l'intelligence aussi d'un entraîneur, c'est si au bout d'un moment il s'aperçoit que il a bossé correctement pendant des années, mais qu'il dit, tiens, je vais modifier ma vision, je vais évoluer, je vais utiliser d'autres méthodes, je vais jouer autrement, ce qui est fort possible. Et ça, j'ai pas encore lu d'interview où il raconte, est-ce que oui ou non il travaille différemment, est-ce que le fait d'avoir tel ou tel joueur, parce que le fait d'avoir tel ou tel joueur, c'est très bien, mais encore faut-il après bien les utiliser.
C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, moi je suis persuadé qu'il a évolué.
Il tire le masque
pour adapter sa méthode, voilà. Ou son plan de jeu au profil de joueur qu'il a à Lille, qui est complètement, totalement différent, mais
des joueurs qui font la différence,
il en a rarement eu avec lui, finalement.
Qu'on voit une évolution dans son approche, effectivement, qu'on voit un pressing qui est plus haut, ce qu'on l'a pas vu faire avec ses équipes d'avant, vraiment de défendre en avançant, parfois même d'aller chercher dans le camp adverse, d'être très fort à la récupération et dans les phases de transition.
Il a un milieu de terrain qui lui permet, c'est costaud.
Il a eu dans pas mal de matchs une sorte de limite, c'est que quand il marquait pas vite, il pouvait être en difficulté. Et surtout s'il encaissait, il réagissait moins bien parce qu'il préfère avoir le contre
correspondait
moins au scénario qu'il aimait. Mais effectivement, il y a eu des choses qu'on a vues tout au long de la saison qui étaient très très intéressantes et des joueurs de qualité. Parce que Sheka, Thiago Mendes, c'est très fort. Pepe, ça se confirme.
Les deux défenseurs. José Font
derrière. Entre l'année dernière, quand le PSG a gagné là-bas 3-0, je crois que ce soir il y a deux joueurs identiques. Alors c'est vrai que le PSG a quand même, il faut le dire, une équipe qui est complètement on dirait pas le PSG vu les joueurs qu'il y a, les jeunes qui sont pas bons du tout, c'est confirmé une fois de plus le bricolage, des mauvais recrutements et tout, mais Lille a également beaucoup modifié son équipe. Il y a que deux mecs qui étaient là l'année dernière quand même, hein, une équipe complètement neuve et une très belle équipe. Oui.
Paul est avec nous au 32-16, en remerciant Laurence bien sûr qui était là il y a quelques minutes. Salut Paul.
Bonjour Gilbert, bonjour Daniel, bonjour Pierre.
Et Paul.
On est 10 tirs en big sur le LOSC ce soir. Est-ce que tu as un truc à rajouter qu'on n'a pas encore dit?
Alors j'ai juste une toute petite chose à rajouter, mais avant de commencer, j'aimerais juste te dire deux choses. Je suis très heureux de vous avoir, c'est la première fois que je passe à l'after.
Ah, et bien, bienvenue parmi nous.
Depuis des années, et là je passe enfin. Donc voilà, ça fait très plaisir. Deuxième chose, avant de commencer réellement, je tiens à dire à Daniel que oui, il a raison, on est passé premier sur le barème du kiff.
Ah, carrément premier.
Ah, on est passé premier sur le barème du kiff, parce que là, je pense qu'on peut dire que c'est bon.
Là, tu peux que être dépassé par Rennes qui gagne la Coupe de France.
Effectivement, mais j'ai vu le match de ce week-end. Je pense pas qu'ils puissent.
Tu sais, les Rennais, quand ils voient Paris soir, ils se disent on est favoris.
Ils disent on peut. Mais en tout cas, c'est sûr que le podium final, on l'a, ce sera Lille, Strasbourg, Rennes, le podium du kiff. Sauf si Rennes perd la finale et tout, la saison va mal finir, ils peuvent reculer. Ils perdent la finale.
Attention, si Saint-Etienne est fini devant Lyon.
Exactement.
Là, Saint-Etienne, grosse remontée.
La grosse remontée des Verts à ce moment-là. T'as raison.
Il grille tout le monde.
C'est vrai, ça.
Bon, Paul, maintenant qu'on a fait cette introduction, on t'écoute.
Maintenant qu'on a fait cette petite introduction, moi, j'ai juste trois merci à dire. Un grand merci à Lille qui a joué en fait comme le second devrait toujours jouer quand il rencontre le premier, quelle que soit la différence de points, quel que soit l'écart entre les deux équipes. Lille a joué comme le dauphin qui veut détrôner le leader.
Mais au match aller, voilà. Lille avait pas fait un mauvais match, ils avaient joué également au match aller. Hein. Paris avait fait un très gros match ce soir-là. Paris était quasi au complet, avait fait un gros match, peut-être un de ses meilleurs matchs contre Lille. Probablement le score était plus serré que le contenu ne le montrait. Mais Lille avait pas été même battu, avait pas été ridicule. Ils avaient joué en tout cas.
Ils n'avaient pas du tout été ridicules. Ils avaient vraiment joué comme ils savaient faire, comme ils le faisaient d'habitude. Et c'est ça que j'aime bien chez Lille cette saison, c'est qu'ils jouent. Quel que soit l'adversaire, avec leur force et leur qualité.
Mais Lyon, quand ils reçoivent le PSG, ils jouent aussi. Il n'y a pas que Lille qui a joué. Lyon, ils ont joué. Même au match aller, quand ils prennent une raclée, Lyon, sur la première demi-heure, ils jouent. Après, ça défile, quoi. Paris a des grosses individualités, voilà.
Ah, mais bien sûr. Mais sauf que Lyon est capable de se saborder contre des équipes qui doivent balayer, alors que Lille, on le voit depuis le début de saison, les matchs qu'ils doivent gagner, ils les gagnent. Il y a deux semaines, ils jouaient contre Nantes, ils démarrent ultra mal et en l'espace de 10 minutes, ils arrivent à renverser le match, ce que lui n'est pas capable de faire.
Ouais.
Donc déjà un grand merci à Lille de jouer comme un second devrait toujours jouer et deux petits merci, le premier petit merci c'est à Paris parce que bon, il faut pas se mentir, ils sont arrivés quand même avec une infirmerie plus remplie que le banc et un troisième merci à Nantes qui a battu Lyon tout à l'heure. Qui a battu Lyon ce week-end et du coup qui nous assure la seconde place à la fin de la saison. Et
donc, là-dessus, 8 points d'avance désormais. Là pour vous tous, c'est réglé. Ils sont deuxième.
Oh ouais, voilà, derrière.
Fait comment pour
ils ont un calendrier plutôt favorable.
On va reconnaître un truc, Daniel, c'est qu'il y a 4-5 matchs encore, on était les premiers, je me rappelle le discours qu'on avait ici en disant Lyon va faire sa ligne droite comme d'habitude, va gagner les matchs,
la force de l'habitude, ouais.
Voilà, j'avais dit ça sera compliqué pour Lyon parce que Lille tiendra et luttera jusqu'au bout, mais je pensais pas devoir changer d'avis aussi vite et aussi tôt.
La réalité d'une saison. Lyon,
tu les vois pas,
Lyon s'est écroulé et s'est sabordé le soir du match de Coupe de France où ils ont foutu en l'air leur fin de saison. Après, tu sais, les saisons, il y a toujours des événements qui se passent. Tu te dis pas que le PSG va arriver à Lille avec une équipe B ou C, se prendre une telle tôle parce que le match a tourné de cette façon-là. Ce qui fait qu'ils prennent le large là où Lyon perd 3 matchs de suite qu'ils doivent jamais perdre. Enfin, notamment 2 en championnat qu'ils doivent jamais perdre. Et là, effectivement, Lille s'envole. Mais quand tu le dis que Lyon va finir deuxième, à ce moment-là, c'est logique. Tu te dis que Paris va aller gagner à Lille, que dans le même temps, Lyon fera pas ses matchs catastrophiques contre des
petits. Ouais.
Voilà. Mais c'est bien qu'une saison réserve encore ce genre de surprise. C'est intéressant. C'est pas des résultats et des scores que tu prévois. Tu peux pas te dire, il y a un mois, Lyon va s'écrouler.
Ça non.
Parce qu'un soir, une conférence de presse va tout foutre en l'air, quoi.
Peut-être qu'on a plus de chance.
Bonne soirée, Paul. Une dernière chose que je voudrais ajouter. J'attends juste le 4 mai, le match qui va opposer Lyon à Lille. Et là, j'attends vraiment de Lille qui montre à toute la Ligue 1 que le second, c'est eux et la Ligue des Champions, elle est pour eux. En tout cas, les phases de poule.
Très bien.
Bah là, tout sont y est, hein, quoi qu'il en soit.
Je sais pas pourquoi tu as choisi ce match-là. On a le calendrier de Lille là sous les yeux. Sous les yeux sur RMC Sport News, vous le voyez. Il y a le match à Lyon, évidemment.
C'est là dont tu parles, non?
Il parlait du match contre Nîmes, c'est pour ça que j'étais étonné.
Ah non, il disait Lyon.
Non, Lyon, je pense.
Non, il disait Nîmes. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, après les 3 derniers matchs de Lille, c'est 2 réceptions, Bordeaux et Angers, qui joueront peut-être plus rien du tout, et à Rennes, dernier match de la saison. Donc,
non, a priori, ça va.
C'est bouclé.
Il y a assez d'avance, là, maintenant, quand même.
Il va falloir sinon qu'il merde sacrément, quoi, pour que Lyon puisse revenir. Hein.
Ouais. Lyon a beaucoup dérapé, l'OM a beaucoup dérapé, Saint-Etienne avait du mal à profiter, aujourd'hui ils ont profité, ça va, Lille.
Voilà, les Lillois.
Lille, ça s'est pas mal joué le match à Nantes, hein. Le match à Nantes, il a beaucoup compté.
T'as raison.
La façon dont ils retournent le match, là encore, mais avec beaucoup d'efficacité.
Il y a quelques matchs comme ça cette saison où ils sont pas au top, mais ça tourne en leur faveur. C'est pas que le hasard.
Ça a beaucoup joué pour eux.
C'est pas que le hasard. C'est qu'il y a un état d'esprit dans cette équipe et une volonté de jamais rien lâcher. Ce qui a été l'opposé du Paris Saint-Germain ce soir, d'ailleurs.
Ouais.
Dans quelques instants, le PSG au programme. 32-16, on vous attend. Je rappelle donc que Paris perd 5-1 ce soir à Lille. Évidemment, le 32-16 est ouvert pour parler du Paris Saint-Germain dans quelques instants. Dans l'after, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
23h19, Daniel Riolo est là, Pierre Ducrot est là. Après la déroute du PSG ce soir à Lille, 5 buts, hein, on a parlé longuement du LOSC, on en parlera hein, si vous le désirez au 32-16. On va maintenant s'attaquer au dossier Paris Saint-Germain avec Mathieu au 32-16. Salut Mathieu.
Ouais, bonsoir à tous.
Mathieu, bonsoir, comment Mathieu. Tu expliques cette déroute?
Salut Gilbert, salut Pierre, salut Daniel.
Salut, bonsoir.
Bonsoir. Pierre, c'était le chouchou du parc à l'époque avec le maillot Opel qui me manque beaucoup. Donc je tenais à souligner quelque Opel, chose parce qu'on parle souvent qu'il manque un milieu défensif à Paris, mais c'est la défense, c'est une catastrophe. Donc Kerrer, bon bah c'est un choix de Tuchel. Bon bah, après voilà. Donc Alves, il est foutu, oui. 35 ans. On a Marquinhos qui est un guerrier. Silva, on sait pas trop s'ils vont le prolonger ou pas, mais Silva dans les grands matchs, on sait qu'il est pas là. En arrière gauche, Kurzawa, Bernat, on a personne et c'est une catastrophe. Et Meunier, à part sur Twitter où il est fort, bah là on a vu ce soir un joli CSC et puis voilà quoi. Donc en défense, c'est la ramasse totale. Et j'aimerais bien savoir s'il y a un club en Europe qui fait autant de turnover bizarres avec les gardiens entre Areola et Buffon. Donc bah défensivement, on est complètement paumé. Et bah comme Daniel dit souvent, l'hygiène de vie de Verratti. Donc bah là, je crois que c'est
petite stat quand même.
Je sais pas moi, Verratti, si on continue de le trouver bon, sa saison est en tout point catastrophique.
Daniel,
ce soir, il a encore pris un jaune et il va manquer la finale de la Coupe de France. T'ajoutes à ça ses blessures, tout ce qu'il a fait, mais combien de temps on va continuer à se foutre de la gueule avec ce joueur qui doit dégager le premier de ce club.
Écoute Daniel, excuse-moi de te couper, mais je me bats avec des amis à moi constamment. Verratti, c'est un scandale. Écoute, j'ai été au Parc des Princes. Le premier match d'Ibrahimovic, c'était PSG Lorient, 2-2, et c'était le premier match également de Verratti. J'étais au Parc. J'habite à Angers. Bon, maintenant je suis entre Angers et Nantes. Enfin bref. J'étais au Parc, j'ai réussi à aller au Parc parce que malheureusement je peux pas être abonné, mais je suis un fanat du PSG depuis l'époque de Paoletta. Enfin,
bref, il s'est passé quoi ce soir-là pour Verratti là?
Et Verratti, c'est un scandale. Il est dans les grands matchs, il est pas là, il est absent, il est.
Alors juste parce que là tu faisais un constat sur la défense, quand même un petit chiffre. Avant les 5 buts encaissés ce soir, le PSG n'avait pris que 18 buts depuis le début du championnat.
Oui, mais quand ils sont...
Ce qui en faisait la meilleure défense du championnat et de loin.
Ils sont en complet et en Ligue 1.
Et il reste d'ailleurs la meilleure défense du championnat.
Dès qu'ils sont bousculés, ils sont en grande difficulté. Kerrer est en difficulté dès qu'il est bousculé. Meunier, quand il est arrivé au PSG, a été une vraie surprise, un coup de frais, que ce soit sur le terrain, dans sa com, il avait un bon état d'esprit. Cette année, je l'ai dit dès le début, on voit qu'il n'y est pas. Il fait une saison qui est abominable. Le but contre son camp, c'est pas un manque de bol, hein. Sa position, elle est minable. La façon dont il est positionné quand le ballon lui tape sur le pied, c'est un mauvais placement défensif. Et il est fautif. Il se blesse derrière. Mais la plupart se blessent parce qu'ils sont mal préparés. Tuchel s'est énervé dans la conf d'après-match, là.
Il y a beaucoup de blessés au PSG, quand même, hein. Quand tu lis la liste, là.
Alors,
ça, c'est un truc.
Moi, je dis toujours que ça n'est absolument pas normal et ça n'est pas la faute. T'as pas de chance quand tu as autant de blessés. Tuchel est en train de se plaindre. Il s'est plaint ce soir en visant directement Enrique de pas avoir assez de joueurs, Mais Thomas, tu te fous de notre gueule ou quoi?
Au moins pour
T'as un budget pharaonique. Tu vas prendre une tôle à Lille qui a changé d'équipe l'été dernier. L'année dernière, il joue le maintien. Tu viens chouiner parce que t'as pas des joueurs. Comment ils se sont préparés, les joueurs? Comment t'as géré tes temps de jeu? Si c'était qualifié pour les quarts de finale, à Barcelone, là, mardi, il y allait sans Neymar, sans Cavani, sans Di Maria, sans Meunier, je sais pas si ça aurait été un handicap, mais enfin, sans Meunier, sans Marquinhos, mais ils sont de notre gueule ou quoi? Ils sont de notre gueule, il va pas s'en sortir en remettant tout sur la gueule d'Enrique. Enrique a certainement ses responsabilités, mais El Khelaïfi aussi a une tonne de responsabilités. C'est de placer les joueurs dans le confort depuis des années. Je le dis, je le répète, le problème de ce club, c'est le confort. Ils sont tous dans le confort. Ils font ce qu'ils veulent. Daniel Alves, il arrive là l'autre jour chez Team du gars. Ouais, je suis pas assez écouté, moi, avec mon expérience. Mais il a apporté quoi, ton expérience au PSG? Il se chie dessus à chaque fois qu'il y a un gros match. Et alors? Il y a le seul, j'ai enfin entendu Di Maria tout à l'heure, interview au CFC. Enfin, quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé contre Manchester, d'abord il a dit ouais, c'est un peu bizarre, c'est ce que disent tous là, c'est bizarre, ah bah c'est tombé du ciel, c'était la malédiction. Non, à un moment, il a glissé. Je sais même pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il a dit. Il a glissé. Ouais, il y a aussi le stress parce que chaque année on nous dit qu'on dépasse pas les huitièmes ou les quarts, machin. Eh ben voilà. Eh ben voilà, tu l'as dit, ça c'est du management, c'est le travail mental, c'est ce que le club fait et la façon dont il entretient cette équipe, ces joueurs grassement payés qui se prennent pour des cadors mondiaux, qui ont des boulards de dingo, avec une star qui est payée une fortune qui n'est jamais là parce qu'il est toujours blessé. Et s'il est blessé, c'est pas la faute à pas de chance, ça n'est pas ça. Sans parler des autres, alors là les autres, là, je reviens même pas sur Verratti, qui est une cat. Je comprends pas qu'on se rende pas compte de ce qu'est ce joueur. Mais enfin.
T'en penses quoi, toi, de Verratti ?
Moi, je voulais laisser finir, Daniel. Non, mais le souci, c'est que malheureusement, ce n'est pas que la responsabilité de Tourelle ou que la responsabilité des dirigeants ou que c'est que c'est un tout. C'est ça qui est malheureux, c'est que le au PSG, c'est devenu un tout, quoi. Il a commencé par la défense.
Mathieu, oui.
Mais tu peux mettre le PSG défend très très mal ce soir parce que tout le monde lâche d'un seul coup. Donc d'un seul coup, tu vas passer à une équipe. Du coup, c'est plus des défenseurs, c'est une équipe qui défend pas ensemble. Donc quand une équipe défend pas ensemble, tu vas passer sur le domaine de l'état d'esprit, l'envie. Donc là tu vas arriver sur ce dont Daniel parle et évoque, et là on peut plus ne pas le comprendre ou ne pas le voir.
C'est une bande de capricieux.
C'est une évidence,
on le
quoi.
Sait depuis longtemps,
c'est une
ce
évidence.
Sont des capricieux.
Quand tu n'as pas quelques joueurs pour les plus grands qui ne sont pas là pour masquer tout ça par leur talent, par leur qualité individuelle,
ouais, exactement.
Et ben tu t'aperçois ou tu reprends tout dans la figure et de façon très très forte, parce que ce soir ce qui est gênant, c'est pas que le Paris Saint-Germain avec deux blessés très tôt et un expulsé perde 2-1 ou 3-1 à Lille par exemple, parce que des Lillois contre bien vont vite, etc. Ce qui est gênant, c'est qu'à 2-1 déjà, tu sais, il y a rien qui change. Déjà, tactiquement, il y a rien qui change. Le PSG n'a pas une réaction.
Pas une seconde que le PSG reviendrait dans.
Mais
moi,
tu sais ce que j'aurais voulu voir. On l'a pas vu. On en a pas parlé pendant le match parce que, enfin, j'ai pas voulu vous interrompre le truc. Mais on n'a pas vu une seule réaction, ni de Tourelle sur le banc, ni d'un patron sur le terrain. Alors, je sais pas.
Il y en a pas. Il y en a jamais eu. Il y en a jamais eu. À part afficher un état d'esprit.
Qui disent les gars, vous savez quoi, sur la victoire ce soir, on en a pas besoin. On va être champion. C'est pas ça. Par contre, maintenant, là, on se met comme ça, là. Alors, je sais pas, ils décident de quelque chose, là. On se met à 5 derrière, 3 devant nous, et on arrête, on n'en prend plus. Voilà, basta. On est costaud jusqu'à la fin, on est à 2-1, on perd 2-1. Basta. Et puis, par exemple, si jamais t'as un Mbappé qui peut jouer
un coup, on le joue. Vous avez remarqué que Thiago Silva a passé le brassard de capitaine à Areola. Ouais. Et pas à Alves ou à un autre.
Ouais, peut-être.
Ou pas
à Mbappé, mais il n'y a aucune réaction, leader de rien 3, du tout. 4, à part être le leader du.
Il n'y a pas de réaction.
À part être le leader au bar, il est leader nulle part, le mec.
Top Tourelle en conférence de presse, c'est en direct, bien sûr, sa première réaction.
On a fait un bon match avec 11. On a fait 4 buts. Une pour Lille, 3 pour nous, 2 hors jeu. Et un but, c'est un but ou une but? Un but. Un but régulier. On a contrôlé le match, on a fait un bon match. On a eu beaucoup d'occasions, nous sommes été très dangereux. Et avec 10, c'était très compliqué, mais on a eu la possibilité de faire un but avec Thilo pour faire les 2-1. Et avec le deuxième but, c'était trop aujourd'hui de perdre notre capitaine, perdre Thomas Meunier. On a joué, c'était nécessaire de jouer avec Moussa Diaby. Il a fait deux entraînements après son blessure. Deux entraînements. Thilo Kera, il est malade. Normalement, c'est pas possible qu'il est avec nous. Il n'a pas fait entraînement le jour avant hier. Et C'est trop. Nous sommes ici la 10e fois dans cette saison. Nous sommes ici avec 15 joueurs ou 14 joueurs parce qu'on n'a pas la possibilité de choisir 16 joueurs. Et c'est trop. Mais tout le monde pense qu'on peut gérer ça parce que on gagne. Mais on manque Ney, on manque Eddie depuis semaines. Pour semaines et semaines et mes semaines, on manque maintenant Angel Di Maria, on manque Marquinhos, on manque notre capitaine. On joue avec des joueurs malades ou après deux entraînements. Et c'est pas comme ça. C'est une équipe extraordinaire. Lille, ils jouent très très bien. C'est super compliqué. Et pour ça, on doit avoir la qualité, on doit avoir tout le monde avec nous pour être capable de gagner ici. Et je pense que c'était aussi possible qu'on gagne ou fait un match nul avec 11, et ça, ça montre, moi, que nous avons cette défaite, et ce n'est pas ça montre pas que nous n'avons pas la qualité. C'est complètement inverse pour moi. Ça montre quelle mentalité on a de gagner jusqu'au 7 points, de toujours gagner et gagner et gagner pour être 20 points en avant. Parce que c'est la situation, c'est ça la réalité. Et je suis entraîneur, je dois être réaliste. Et pendant plusieurs semaines, je ne sais pas quoi faire. Chaque trois jours, je n'ai pas la possibilité de choisir la meilleure équipe pour un match. Je choisir de qui est capable de jouer pour gérer 10 minutes. Et pour ça, tout le monde pense que c'est normal. Duran Bellat, il joue avec 3, il joue avec 5, il joue à gauche, il joue à droite, il joue 6, il joue 10. Mais c'est pas comme ça. Et si tu fais un match contre un deuxième qui est qualité extraordinaire, ça peut venir. C'est trop. C'est trop dans un match avec 10 pour faire le deuxième but pour Lille. OK. C'est trop. On peut voir ça.
Voilà la réaction longue, la première longue réaction de Thomas.
Non mais ok, le constat qu'il a plus les joueurs avec Nantes, tu te demandes ce qu'il va aligner comme équipe. Il va demander à Thiago Motta d'envoyer les 8-19 probablement. Non mais je veux bien, mais comment t'en es arrivé à cette situation? Comment t'en es arrivé à avoir autant de blessés? Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en aies autant? Il y a un problème dans la préparation médicale? Plein de fois, moi, on a évoqué devant moi, alors c'est des domaines que je maîtrise pas vraiment, mais... je sais pas si toi aussi on t'a parlé de ça, mais je pense aussi, Gilbert. Mais il y a des problèmes dans la préparation physique de cette équipe. Parce que t'as trop de gens qui gèrent le truc.
Bah, déjà, la moitié des mecs, ils ont leur propre préparateur physique.
Voilà,
déjà.
T'as les médecins, t'as
Thiago Silva,
la préparation physique et les blessures des joueurs au PSG. C'est un sujet. À chaque fois qu'on en parle, c'est pour me dire, ça va pas, mais on est incapable de m'expliquer le pourquoi tellement c'est confus. En tout cas, le bordel, il est immense de ce côté-là.
Parce que tu rejoins le même problème que pour tout, en fait. Tu n'as pas de verticalité qui décide. Tu as une multitude, alors peut-être de gens très compétents, hein, mais qui ne vont pas peut-être dans le même sens.
Exactement. Et comme tu as plein d'interférents, c'est comme au centre de formation.
Thomas Tourelle en parle.
Les premiers matchs contre Manchester, ça accumulé. C'est tellement. Et c'est trop. C'est trop chaque match. Et on doit dire honnêtement entre nous et on doit réfléchir et on doit trouver plusieurs raisons. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour des blessures, mais ça c'est trop, c'est pas possible que c'est seulement malchance.
Ah, bonsoir, voilà, Karim. Quand même.
Voilà.
Ça, déjà, s'il dit donc, c'est pas possible
dit,
que ça a mal tendu.
Il a dit, pendant que tu parlais, moins, on doit se poser clairement des questions, il a dit.
Mais l'organisation du club est complètement, comme le disait Pierre, remplie de gens peut-être tous compétents, mais tous en interférence.
Parce qu'on autorise.
On ne sait pas qui fait quoi. T'as plein de mecs qui sont payés, surpayés là-dedans, et ça se bouscule, des compétences qui se bousculent, et il n'y a pas de prise de décisions qui vont dans le même sens. C'est absolument incroyable. C'est incroyable la gestion de ce club année après année. À cette période de l'année, on continue à pointer ça du doigt et rien n'est fait. Et ils vont redémarrer au mois d'août, ils vont dominer le championnat, arrivera la Ligue des Champions, on dira tout va bien, on se remettra à y croire, et la deuxième partie de saison, ce sera la même chose, parce qu'on continuera à dire que Thiago Silva c'est le capitaine, que ceci, que cela, que Verratti c'est une petite merveille, que... Non, il faut renouveler dans tous les joueurs qui sont là depuis le début, il y en a plein qui doivent se casser parce qu'ils sont plus du tout au niveau.
Tu peux pas?
Je sais pas, Verratti, c'est pas un mec que l'Europe entière nous envie.
Ben, au salaire où il est là, ouais. Comme ça,
c'est peut-être qu'il a pas le niveau qu'on lui prête en France. C'est peut-être qu'on lui donne beaucoup trop d'argent par rapport à son niveau.
Il aura des opportunités, hein, mais comme...
Il aura des opportunités, je suis sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas un club qui le veut. Alors, parce que tout le monde en Europe est au courant de ce qu'il fait de sa vie. Tout le monde.
Il aura plein d'opportunités.
Il n'y a qu'au PSG qu'on ferme les yeux sur ce qu'il fait.
Si je peux je finis ma phrase, il aura plein d'opportunités,
sauf qu'il n'en aura pas une qui sera de suffisante pour lui, ni sur le plan financier, ni sur le projet sportif. Parce que ce sera plus ce qui correspond à ce que lui a envie.
Après, il est évident que
il n'aura pas un top 5, un club top 5.
Bien sûr que non. Il n'a pas le niveau. Mais ouvrez les yeux. Il n'a pas le niveau. Il fait 40 touches de balle avant de donner un ballon.
D'accord avec toi.
Il pourrait avoir le niveau. C'est ça le pire. Il pourrait.
Mais tu sais, il y a plein de mecs qui peuvent avoir le niveau si d'un coup ils se mettent mentalement à être différents. Et d'ailleurs, puisque je parle de mental, la catastrophe post-Manchester United, il est évident qu'elle a provoqué un relâchement le club, et que ce relâchement à l'entraînement, dans l'intensité et tout, provoque des blessures.
Non, mais tu sais à quoi ça fait penser là, le mec qui prend un coup et qui est groggy, qui arrive pas à s'en remettre, qui titube. Ça fait penser à ça. Ce club là est en train de tituber et pas savoir comment réagir, je pense. C'est peut-être pas simple la remarque, hein. Mais qu'est-ce qu'on ferait à leur place, je sais pas. Faire le ménage, c'est ce qui semble être la solution, sauf que pour faire le ménage, faut que tu puisses, Daniel, te débarrasser de certains joueurs, et ça, je pense que ce sera très difficile.
Petite précision, les gars, sur la finale de la Coupe de France.
Ah, parce qu'il y a le match contre Nantes cette semaine.
Alors, Verratti sera pas suspendu.
Ah, parce qu'il y a le match à Nantes à 19h.
Il purgera sa suspension contre Nantes.
C'est ça.
Samedi.
J'avais oublié ce match.
Voilà. En revanche, Bernat.
Non, c'est pas samedi, c'est mercredi.
Mercredi. En revanche, si Bernat, et franchement, vu la situation et tout, s'il prend deux matchs à la commission de discipline mercredi.
Ah non, il prendra qu'un match, je pense.
Tu penses?
Ah oui,
s'il prend deux matchs, il sera suspendu pour la finale.
Non, sur un truc comme ça, je pense qu'il prendra qu'un match et peut-être un sursis, un truc comme ça.
Bon, ça dépend aussi du casier qu'il a, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte.
Ouais, c'est pas un joueur qui souffre d'une image sulfureuse, etc.
On l'a dit pendant le match, il y avait prendre un enfant par la main, et maintenant il y a prendre un pépé par la main.
Tout à fait. Et c'est aussi important.
C'est vrai qu'il faut s'occuper aussi des pépés.
Bien sûr.
Ouais.
Alors, juste un truc quand même. Tourelle, quand il arrive et qu'il nous dit, on a fait un bon match.
Non, il a dit non, moi aussi j'ai failli croire à une Garcia.
Non,
en fait il a dit.
Il commence à partir sur l'arbitrage après.
Non, il a dit quand on était 11.
Oui. On a fait un match. Alors, fallait comprendre, on a fait un bon match quand on était 11.
Non, mais il l'a dit.
Il a dit.
À 11, on fait un
match. Et c'est vrai.
Il a mal passé la vérité.
C'est le début de match, c'est pas effectivement, et plutôt pas mal à ce moment-là.
Non, c'est vrai.
Eric est là au 32-16. Salut Eric.
Non, il a pas fait une Garcia, j'ai eu peur.
Oui, bonsoir. Bah, écoutez, hommage à toute l'équipe de l'After et puis même ceux qui sont pas là, Jérôme et tous les autres. Effectivement, bon, moi je suis un fan du PSG depuis très longtemps, de la première heure. Hein. Je suis même j'étais Red Star avant que le PSG n'existe, donc je suis un vieux de la vieille. moi ce soir je suis à la fois réconcilié par le fait que au moins on a une équipe qui a joué à son niveau en face, Lille, et je veux déjà remercier qu'elle a joué le jeu et du beau jeu. Donc c'est vrai qu'on a une première mi-temps qui était agréable. Hein. J'ai vu un match de la première ligue.
Ah, tu l'as trouvé bien la première mi-temps?
La deuxième mi-temps
était superbe de Lille, mais la première elle était tout le temps avec les histoires d'arrêt de jeu. Là,
non, mais tu sentais qu'il y avait une forme d'intensité, de gros match, quoi.
On voyait bien qu'il y avait des choses intéressantes. Donc c'est vrai que après, évidemment, clairement à 10, le PSG avec une équipe improbable. Bon, moi, ça fait déjà un petit moment, même avant Manchester, que les équipes improbables du PSG, ça me surprend pas que ça parte en quenouille. Je suis poli. Effectivement, à 10.
Entre quenouille et couille, il n'y a pas beaucoup de lettres qui diffèrent.
Ouais, mais après, il va y avoir une sonnette qui va sonner. Ça me fait penser à des choses. J'ai pas envie de repéter des trucs.
Il y a les adresses de tout le monde, hein, fais gaffe.
Oui. Non, mais bon, après, c'est plutôt logique. Quand on voit les joueurs, la composition, moi, Tourelle, au moins, l'avantage d'être France, c'est qu'il fait avec ce qu'il a. Mais effectivement,
une fois de plus, il lance un message à ses dirigeants. Hein.
Il ne peut pas se plaindre du manque de joueurs. L'effectif, il est conséquent. C'est juste qu'il a plein de blessés. Après, à un moment, il faut également dire...
Il
manque pas de joueurs, ils sont blessés.
Ah mais il
va pas avoir 30 joueurs sous contrat en attendant qu'il est blessé tous les ans. Il y a une vraie difficulté, surtout par rapport aux autres clubs de Ligue 1, c'est indécent sa plainte.
Il faut marquer une différence entre quand il se plaint cet hiver parce qu'il a un manque de qualité dans un secteur de jeu, par exemple comme le milieu de terrain,
et parce que tu dois encore jouer la Ligue des Champions et que tu as des ambitions
très élevées, c'est-à-dire te qualifier en Ligue des Champions,
sur la Ligue 1,
etc. Et une différence entre aujourd'hui te plaindre d'un effectif qui logiquement pour jouer une finale et marquer un point pour être champion devrait largement te suffire.
Alors après, il y a un autre élément, parce que ça, je le dis souvent, c'est récurrent. Il n'y a pas de jeunes au PSG. Il n'y a pas de jeunes pour jouer au PSG.
Pour regarder le niveau de
ils
jeu,
ils ne sont
quand
pas bons. Ils ne sont pas formés, parce que ça aussi, c'est un autre des problèmes du club, le centre de formation. il y a 10 000 personnes qui y travaillent, il y a des postes à responsabilité, on ne sait plus qui fait quoi, c'est un bordel sans nom. Les jeunes, Dagba, Nkunku, Diaby, alors peut-être Diaby il était malade et tout, sont pas des joueurs qui ont le niveau pour jouer au PSG, avec l'attente qui est autour de ce club. Ils ne sont pas bons, ça se voit, il suffit de les voir jouer sur le terrain, ce sont la plupart des tout droits. Alors, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'intelligence de jeu, c'est pas des bons joueurs de foot.
Daniel.
Ils pourront peut-être aller en Ligue 1, évoluer ailleurs ou ce que tu veux. Mais,
si ce sont pas des joueurs suffisamment, pour la Ligue 1, tu peux pas les envoyer ailleurs non plus à ce moment-là, Daniel.
Si, regarde, t'en as bien un qui est au Celtic, t'en as un qui
t'as des mecs
à droite à gauche, quoi.
Le niveau du championnat.
On va conclure avec un truc à rajouter?
Oui, je veux simplement dire qu'il y a une question de culture, de mentalité. C'est vrai que les jeunes, maintenant, ils prennent un peu le boulard très rapidement.
Ah, à l'image de Kimpembe, là, qui, à mon avis, est pas loin d'exploser au niveau du boulard.
De rester sur le banc pendant un certain temps, de profiter de l'expérience, de rentrer à dose homéopathique en fonction du contexte, et du coup les gars ils se prennent la tête, ils refusent les contrats, et du coup on n'a pas cette pérennité d'avoir des jeunes que l'on va pouvoir garder, faire travailler dans le temps, et qui préfèrent se barrer dans des clubs plus importants sur lesquels ils vont sans doute faire même banquette, parce qu'effectivement ils veulent pas faire banquette au PSG, mais ils sont capables de le faire à l'étranger. Donc faut peut-être aussi se poser la question de la qualité, oui, mais la quantité, mais il va falloir travailler dans le temps, c'est l'éducatif sportif, on va dire, parce que PSG, il n'est pas tout seul, et s'il veut faire des choses au niveau européen, eh ben, il va falloir aussi qu'il se forge une philosophie, mais avec des gens d'expérience, mais chacun fait bien son taf, et je pense qu'avec un Tourelle, d'un entraîneur d'un niveau de Tourelle, il y a de quoi faire des choses parce qu'on a la qualité. Après, il y aura sans doute du tri à faire puisqu'on a un renouvellement de joueurs. Hein, c'est
vrai. Cette année, effectivement, il y a du tri à faire. On y reviendra un peu plus tard sans doute, mais j'ai sur Direct Studio un message de Titi PSG qui lui dit: Tourelle me fait bien rire. À Liverpool, ils sont leaders, ils vont en demi de Ligue des Champions, ils ont le même effectif, aucun blessé, aucun malade. Nous, on a que des enfants gâtés, des pleureuses, c'est honteux.
C'est vrai.
Voilà ce que dit.
C'est une très bonne synthèse.
Ouais, non, ce que je vous disais tout à l'heure, l'effectif, pour moi, la plainte de Tourelle cet hiver, quand il manque de qualité au milieu, moi je suis d'accord et je le rejoins complètement, même s'il n'y avait pas de milieu à ce moment-là disponible pour apporter une vraie plus-value. Aujourd'hui, c'est différent. La plainte, je la reçois beaucoup moins parce qu'en termes de quantité, tu devrais avoir suffisamment de monde pour jouer la Ligue 1.
La saison, elle s'est arrêtée au soir de Manchester, au parc. Elle s'est arrêtée là, la saison.
Aujourd'hui,
le club a encore... je sais pas faire le calcul, un peu moins 20 points d'écart. 17 points d'écart. Donc, champion dans un fauteuil. Là, il t'arrive, ce soir, on parle fort, on est un peu excité parce que 5-1, c'est quand même un score assez rare. Bon, ils perdent. Voilà. Mais, c'est même pas tant le 5-1 le problème, c'est que les problèmes sont toujours les mêmes.
C'est parce que ce 5-1 année traduit après les mêmes année. Problèmes, effectivement.
Parce que qu'ils prennent 5-1 ou qu'ils perdent 2-1, et puis de toute façon, ils vont au titre derrière. Voilà, c'est que c'est indéfiniment le même problème. Et que ce soir, ouais, ok, le 5-1, c'est plus comme un gros bouton au milieu de la gueule, quoi. Ah, bon, mais ce gros bouton, ils vont l'éclater, le pus va sortir et rien ne sera fait.
Juste, par rapport au secteur médical, ce qu'on sait, Daniel, ce que tu disais tout à l'heure.
Un peu plus agréable, Daniel.
Donc, il y avait un patron.
Je l'ai visualisé, là, c'est...
Il y avait un patron du secteur médical historique, le docteur Roland, si j'ai bonne mémoire son nom.
Il est sur la touche.
Qui n'est plus là. En fait, Enrique, il a voulu mettre des mecs à lui. Derrière.
Au centre de formation, pareil.
Voilà.
Il y a le clan des Portugais, le clan des machins trucs.
Ouais, il a mis aussi son nez dedans.
Sur le plan médical, tu veux dire?
Ah oui, je sais pas, sur le plan médical.
Chez les médecins, c'est le bordel, pareil.
Oui, non, je suis d'accord, mais je suis pas sûr qu'Enrique ait voulu mettre ses médecins à lui.
Au niveau des préparateurs physiques, c'est la même chose.
Alors ça peut être.
Les mecs dans tous les sens.
Moi au niveau des
prépas individuellement d'un tel.
Mais moi au niveau des prépas physiques, je pense pas que ce soit le club qui cherche à imposer plusieurs types de. Moi je pense que le club doit avoir un staff, devrait avoir un staff et qu'il faut limiter.
Un mec qui gère.
Il y a personne qui gère. Il faut limiter les différents alors prépas physiques, kiné, ostéo, appelez-les comme vous voulez.
Mais les mecs ils ont leur petite équipe perso.
Individuelle.
Neymar il a son équipe perso. Thiago Silva il a son équipe perso.
Ouais mais tu sais quoi, tu fais chez toi.
Daniel Alves il se greffe chez un des deux.
Tu fais chez toi, tu fais ton travail en temps masqué si t'as envie avec un ostéo en plus ou quelque chose. Mais tu c'est pas tous les jours au camp des loges ou au centre Redou maintenant où chacun ou en tout cas beaucoup ont un truc en plus etc. C'est pas possible.
5-1 pour Lille face au PSG ce soir.
Un steak au PSG.
Dans quelques instants, on est de retour. On va notamment parler de Saint-Etienne, qui bat Bordeaux 3-0, Rennes 0-0, Montpellier bat Toulouse 2-1. Ce sont les résultats Ligue 1 du jour.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Bienvenue pour Daniel Riolo. On va aller tout de suite. Christophe Galtier en direct en conférence de presse.
Actif. Et surtout, surtout une envie de gagner. On est toute la semaine, on a beaucoup travaillé avec l'ensemble du staff et les gens qui sont autour de l'équipe pour mettre dans les meilleures conditions psychologiques les joueurs. Non pas qu'on est dans une situation délicate, bien au contraire, mais surtout pour faire un match, le match qu'on n'avait pas pu faire au Parc, mais face à un autre PSG. Mais voilà, je suis très heureux pour eux qu'ils aient pu se libérer dans ce match-là et d'avoir comme référence le fait que qu'il faut toujours insister pour gagner un match.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Est-ce que c'est que l'expulsion de
Bernat
à la 38e minute qui est le tournant de la rencontre? Est-ce qu'on peut dire que Paris a été plus facile à gérer pour toi, pour tes joueurs?
Il y a ce que je disais il y a deux jours en point de presse. Avec beaucoup de respect et d'humilité, il était plus... Dans la préparation de match, il était plus facile de préparer le match avec les absences. Et que, évidemment, en cours de match, quand vous avez la supériorité, c'est toujours mieux. Mais mes joueurs ont su profiter de cette supériorité, même si Paris a eu des situations et que Mike a eu des arrêts décisifs à faire. Mais on a su, ils ont su rester dans le match, ne pas s'énerver par rapport à cette première période où il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'excitation. J'ai demandé à mes joueurs à la pause de rester très calme, très froid, de rester à 11 sur le terrain, de ne pas tomber dans un excès d'engagement ou réagir et avoir une mauvaise réaction. Et ensuite de toujours chercher à attaquer et d'aller chercher cette profondeur et pour faire en sorte que le PSG puisse courir vers son but et non pas le contraire.
Voilà pour Christophe Galtier, sa première réaction. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir.
Ouais. On a anticipé ses mots.
Très bien maîtrisé.
Voilà.
Il nous reste 10 minutes. Il faut qu'on dise un mot de Saint-Etienne. Parce que là, Saint-Etienne fait un gros coup ce week-end. Ils reviennent à 3 points des Lyonnais.
Ah, ils avaient raté le gros coup la semaine dernière. T'imagines si la semaine dernière ils font pas le match pourri là et ils seraient collés au cul de Lyon.
On pensait le podium figé. Enfin après quel ordre, on savait pas trop ces dernières semaines. Maintenant c'est plus clair. Enfin là il y a quand même un mano à mano Lyon Saint-Etienne qui va s'organiser là les gars.
Bah, est-ce qu'il
il est organisé.
Lyon
se méfie plus de Saint-Etienne que Lyon regarde
le problème,
Lille maintenant.
Savoir le problème c'est surtout de savoir parce que Saint-Etienne tu sais que ils vont pas gagner tous les matchs d'ici la fin de saison, mais ils sont dans leur dynamique. C'est comme aujourd'hui, hein, leur match est loin d'être extraordinaire, mais en tout cas,
il y avait une
vraie volonté d'aller le gagner. En tout cas, c'est déjà ça. Mais c'est la vraie question, c'est de savoir plutôt qu'est-ce que Lyon va faire.
Ouais.
Qu'est-ce que
Lyon leur a offert la possibilité d'être là.
Si Lyon continue de déraper, si Lyon continue de perdre ou de faire des contre-performances, bah Saint-Etienne, même irrégulier, va y arriver à les dépasser.
T'as quand même deux dynamiques très opposées là, parce que même comme tu le dis, si Saint-Etienne ne fait pas tout parfaitement. Moi, j'imagine bien là dans la peau de celui qui course l'autre là, un Geoffroy Guichard qui va être bien chaud.
Non, Saint-Etienne, ils ont tout intérêt à y croire.
Ah, ils vont y croire et ils vont être dans une dynamique où
ils peuvent
devenir un peu réguliers quand même. Je pense.
Non, bien sûr.
Tu vois, là où Lyon va avoir beaucoup de
mais
mal.
Pour moi, ça dépend encore de Lyon parce que Lyon
ils sont devant, normalement.
Les capacités et l'effectif pour gérer le retour des Verts, mais à condition de se remettre à gagner. Et est-ce que la machine est définitivement cassée? Est-ce que la machine peut repartir? Est-ce que le fait que Genesio ait trahi un secret de polichinelle en disant bon c'est bon je m'en vais, est-ce que ça va débloquer la situation?
Tu crois?
En fait, je n'en sais rien. C'est Lyon qui a les clés.
Ouais,
peut-être
pas.
Plus que Saint-Etienne en fait.
Compliqué. Mais en tout cas, ils sont donné le droit aujourd'hui de.
Ouais.
Je vous propose d'écouter Mathieu Debuchy qui a marqué un doublé aujourd'hui. Qui est plutôt rare pour lui.
Il marque régulièrement quand même.
Ouais, c'est vrai qu'il marque pas mal.
Pas des doublés.
Régulièrement. Pour un défenseur, oui. Dans l'état 4 ou 5 buts cette année. C'est...
Mais un doublé, bon.
Ouais. L'année dernière, il a marqué pas mal aussi.
On va s'occuper de nous déjà, c'est la priorité. Gagner les matchs. Et puis les autres, s'ils font des faux pas, c'est bénéf pour nous. Pour 5 points, c'est encore une petite marge, mais c'est pas encore assez pour être libéré. Mais c'est toujours mieux ce soir d'avoir 5 points d'avance, c'est sûr.
Alors tiens, on va vous montrer une petite stat sur RMC Sport News, assez étonnante sur Debuchy. Il y a qu'un seul défenseur dans les grands champions européens qui marque plus que lui, c'est Sergio Ramos.
Ouais,
depuis début 2018.
Arrêté, ouais.
Depuis janvier 2018, seul Ramos a inscrit plus de buts, 10, que Debuchy qui en a mis 8.
Ouais, c'est étonnant. Il en met 4 aussi, ouais.
Bon, voilà.
Bon, après, c'est assez,
Lyon, la semaine prochaine, il reçoit Angers. Si Lyon bat pas Angers, là, forcément, tu seras obligé d'y croire pour Saint-Étienne, quoi.
Tu vas en pas plus, Angers, le match c'est le vendredi, je crois. Ça veut dire vendredi, que si jamais Lyon fait pas ce qu'il faut, t'imagines Saint-Étienne comment ils vont être fous derrière.
S'ils sont pas en transe à Reims dimanche après. Non, mais cette course-là, elle est intéressante.
Elle est intéressante.
Mais c'est Lyon qui a rendu ce truc intéressant en étant aussi cata, quoi.
Enfin, Lyon, ça va bien s'arrêter un moment.
C'est ça qu'on ne sait pas. Lyon perd jusqu'à la fin quand même, mais
c'est ça qu'on ne sait pas. Mais quand tu perds et quand tu lis fais des matchs comme ils ont fait là récemment,
ils sont limite venus dans le wagon du dessous plutôt que de continuer à monter dans le train pour jouer la deuxième.
J'ose espérer que même sans entraîneur, les joueurs qui sont sur le terrain sont capables de se dire oh les gars là, c'est le club là, il faut qu'on soit sur le podium, faut qu'on soit troisième. Si eux n'arrivent pas à se mettre devant une glace, enfin à la limite ils ont presque même pas besoin d'entraîneur pour ça. Ils doivent juste comprendre qu'ils sont à Lyon et que
je pense que l'entraîneur
pour faire un bilan du week-end là,
cette saison juste.
Je vais quand même aller un petit peu plus loin. Vous savez que là aujourd'hui, il n'y a que 5 points d'écart entre Lyon et Marseille.
Oui, non, mais ce que je te dis, ils sont revenus dans le wagon
de. Tu ne peux plus rien dire tellement les équipes en regarde le match de l'OM.
Avec un club comme l'OM qu'on voyait en perdition il y a 10 jours.
Mais ils le sont en perdition. T'as
là,
vu leur match
les
encore.
Mecs ils peuvent encore être sur le podium.
Ils le sont en perdition.
T'avais deux courses normalement, celle à la deuxième place qui était Lille-Lyon, et puis t'avais celle pour la 4-5e où t'avais les 4-5 équipes concernées. Bah Lyon, ils ont rejoint cette course-là, ils ont lâché l'autre quoi. C'est exactement ça aujourd'hui, 8 points avec Lille. Ça
depuis combien de temps le troisième a pas eu de 56 points, le quatrième 53 points, les moyennes de points sont lamentables. C'est ça qui...
Alors, effectivement, on peut considérer qu'il y a un nivellement par le bas, mais enfin, ça nous promet quand même du suspense. C'est au moins l'avantage.
Oui, oui, exactement. C'est vrai.
Imagine, Marseille, ils sont à même pas 1,60 de moyenne de points par match. Bah, c'est... Pour une équipe qui veut jouer le podium, c'est terrible.
Alors d'ailleurs, j'ai des nouvelles de Balotelli, figurez-vous, parce que vous savez qu'il s'est fait mal. Alors il s'avère que il a pas démarré le match à 100%, puisque sa cuisse l'avait déjà empêché de démarrer à Bordeaux, mais il s'est pas entraîné une bonne partie de la semaine avec ses collègues. Et donc il a bossé qu'avec le préparateur physique, mais il devrait être rétabli pour OM Nantes. Voilà les infos du soir.
S'il le décide, si on l'emmène Balotelli en hélico. Si on le fait pas trop courir, si sur le terrain on lui donne un bon ballon, s'il fait une frappe cadrée, ça suffit parce qu'il faut pas qu'il fasse plus que ça quand même.
Bah écoute, s'il met les buts, qui ramène Marseille sur le podium.
Là, ça fait un petit moment qu'il a fait semble être déjà un petit peu terminé quand même. Mm. On va dire, en tout cas au niveau de coupe de cheveux, il évolue. ça va.
Mm. Alors, OM Nantes, c'est dans 15 jours.
Okay, hein, une belle tripotée de Baltringue dans ce championnat. Les mecs qui se prennent pour des stars là. Et puis,
Les coupes de cheveux, bon.
Non, mais entre Verratti, quoi. Oh là 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 là, ça en fait, des mecs, des pipos. Oh,
Verratti a pas une coupe de cheveux.
Mais je parle pas de la coupe de cheveux, je parle du statut de ce qu'on dit de ce mec et du niveau affiché, quoi.
Je taquine.
Non, si tu veux parler de cheveux, vous pouvez évoquer celle de Courzava, la coupe Balichiotte.
Ouais, mais les coupes de cheveux,
t'en as pas coupé comme ça. Non, t'as dit que c'était Otis dans,
Astérix.
Dans Astérix.
Hein?
Ah oui.
Dans Astérix.
Ah oui.
Ah mais le film,
c'est vrai que c'est
moi, j'ai fait les BD moi de Astérix, excuse-moi.
Ça regardera Otis dans Astérix, tu vois.
Ouais, moi Balichiotte, ça marche aussi.
Oui, alors tiens, Amine, alors pas mal de messages évidemment concernant le PSG principalement sur le hashtag RMC Live. Amine nous dit oui, mais Ramos tire les pénaux, hein, alors que Debuchy ne les tire pas. Très bien.
Pénaux quand?
Je sais pas. Écoute, quoi, Sergio Ramos.
Ça lui arrive. Non mais c'est surtout sur corner aussi.
Cette année, ouais. Mais pourquoi la stat c'était 2018, c'était cette année, je sais plus, enfin on s'en fout.
Ouais,
on s'en fout un très grand.
Nathaël nous dit, Eric Rolland, le médecin, est toujours au PSG, mais il n'exerce plus directement.
C'est ce que j'ai dit, il est sur la touche.
Direct, voilà, bon c'est ça.
Je mettais un bémol sur le staff médical quand tu me parlais d'Antero, etc. Mmh. Ça n'a pas autant changé que ça, le staff médical. C'est plutôt ce que les joueurs sont venus ajouter à chaque fois, avec leur staff.
L'idée, c'est la confusion et c'est le on ne sait pas qui fait quoi et comment. Voilà.
Alors on m'ajoute, alors je ne sais pas si ça compte dans la gestion globale du club, c'est Florian qui nous rajoute, regardez également ce qui se passe en National 2 pour le PSG qui va sans doute descendre. Alors, ils sont encore au-dessus de la ligne de descente, hein, mais voilà, après bon, la gestion d'une équipe...
On ne forme pas de bons joueurs en PSG.
La gestion d'une équipe bis, bon, et voilà. Hein? On n'a pas parlé d'Areola, nous dit Schofield.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Areola, ce soir?
Non, Lionel Charbonnier nous dit quand même, il n'a pas fait un bon match.
La frappe de Bamba qui prend au premier poteau.
Petit côté.
C'est pas un bon match. Il est coupable sur la frappe au premier poteau. Après, il fait une belle sortie.
Pour moi, honnêtement, c'est pas le
plus gros problème ce soir, Areola. Honnêtement, sur la tête de fonte, il peut rien faire. Sur le 1 contre 1 avec Pepe, il peut rien faire. Il y a quoi encore?
Mais à force de se faire câliner par Tuchel dans la gestion câlin, ils se sont tous endormis.
Ouais, mais voilà, c'est ça. Tu rejoins un autre problème. C'est pas déjà, trop la performance d'Areola ce soir.
Déjà que c'était des agneaux. Là, ils sont devenus. C'est quoi en dessous d'agneau?
Agneau de lait.
Alors vraiment, c'est tout petit là. Petit cabri.
Ça tombe bien.
C'est le bientôt, cabri ouais. Est c'est petit Pâques. À l'agneau.
Ah, c'est pas l'agneau à Pâques, c'est.
Si, c'est l'agneau. L'agneau Pascal.
Bah, évidemment, toi, tu restes toujours sur le chocolat, mais.
Pas du tout. Après 3 ans en Grèce, c'est vrai, comment je peux hésiter? Attends, je peux te dire que là-bas, l'agneau, tu le manges.
Ah oui, c'est bon.
À Pâques. Ah oui.
Attends, c'est 3 ans en Grèce, quand même.
Ah oui.
Tant
que ça.
Finissons quand même là-dessus,
deux
là.
Ans et demi.
Ce 5-1 contre Sedan, là.
Combien
de joueurs l'ont lâché?
Alors, c'est ce que j'ai dit à Gilbert tout à l'heure et je suis très honnête avec vous, les mecs. Si je savais aujourd'hui, je m'en foutrais de le dire complètement.
Ah, mais dans l'équipe, mais combien l'avait lâché?
Je pense pas que Para. Mais je pense qu'honnêtement, effectivement, il y en a quelques-uns qui avaient pas envie de que ça se passe bien à Sedan.
19 contre Bordeaux. Toi, non, mais d'autres avaient lâché.
Alors on en a jamais parlé. Non mais c'est vrai, on en a jamais parlé. Il y a rien eu de collectif, tu vois, de fait. Mais effectivement, on savait tous que ce serait pas la défaite.
Tu sais qu'Anelka ne joue pas ce match
ce soir-là.
À Sedan ?
Non, j'ai le compo sous les yeux.
De quoi ?
Il y a pas Anelka.
Non, il y avait Ali, il y avait Lolo.
Non.
Il y avait pas Lolo Robert, si bien sûr que si.
Oui. Letizy, Algerino, Okpara, Rabé, Sanratana, Distin, Luxin, Pierre Ducrot, DU. Laurent Leroy et Christian.
Oui, Christian devant le Brésilien. Voilà. Ouais.
Et Yanovski rentre à la 87e.
Igor, ouais.
Ça change tout.
Lolo Robert, il est pas là.
Et Dalmat, non, il n'y a pas Laurent Robert. Si, il y a Laurent Robert.
Ah oui.
Il y a Laurent Robert, Laurent Leroy et Christian. Non, mais il n'y a pas Anelka.
Il manque le match, mais il est dans le coup du projet. On fait tomber Bergeron.
D'ailleurs, enfin, Lucien, à l'époque, avait la coupe de Cordova et personne ne disait rien.
Astérix n'était pas encore sorti.
Une dernière info pour finir, vous dire que Infantino a fait une petite visite discrète au Koweït. Et en fait, vous savez quoi? Il discute avec le Koweït, pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde 2022. Parce qu'ils disent qu'à 48, il n'y aura peut-être pas assez de stade au Qatar. Et comme le Qatar est fâché avec pas mal de ses voisins, ils sont pas fâchés avec le Koweït. Donc pourquoi pas des matchs au Koweït pendant la Coupe du Monde 2022. Et puis, 23h59, je vous donne le programme de la semaine. C'est assez simple. Coupe d'Europe, cette semaine, les matchs retour. Donc mardi, mercredi et jeudi de Coupe d'Europe sur RMC. Et l'After, bien sûr, analysera tout ça. Et demain, on est là dès 22h avec Pierre et Daniel, comme tous les lundis.
À demain.
À demain et bonne nuit à tous. Et tout de suite, c'est le poker, bien sûr.
RMC, l'After Foot.